Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire la manifestation supramentale sur la Terre de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mère. C'est chapitre 2, le corps divin. Une vie divine dans un corps divin, telle est la formule idéale que nous envisageons. Mais que sera ce corps divin? Quelle sera la nature de ce corps, sa structure, le principe de son activité, la perfection qui le distinguera du physique limité et imparfait où nous sommes maintenant enfermés? Quelles seront les conditions et le fonctionnement qui reste encore physique de par sa base sur la Terre permettant de reconnaître qu'il est divin. Si ce corps divin doit être le fruit d'une évolution, et c'est ainsi que nous devons l'entendre, une évolution qui est partie de notre imperfection et de notre ignorance humaine, pour s'élever à la vérité supérieure de l'esprit et de la nature. Par quel processus ou quelles étapes ce corps peut-il se former et apparaître ou rapidement surgir? Le processus de l'évolution terrestre a toujours été lent, tardif. Quel principe doit intervenir pour qu'une transformation, un changement progressif ou soudain puisse se produire? En fait, ce n'est pas par l'effet de notre évolution que nous sommes parvenus à la possibilité de cette transformation. De même que la nature évolutive a dépassé la matière et manifesté la vie, et manifester le mental, de même, elle doit dépasser le mental et manifester une conscience et un pouvoir d'existence délivré de l'imperfection et des limitations de notre existence mentale. Une conscience supramentale, une conscience de vérité capable d'exprimer le pouvoir et la perfection de l'esprit. Dès lors, la loi ou la méthode de notre évolution ne sera plus un lent changement tardif, sauf dans la mesure où l'ignorance mentale s'accroche encore plus ou moins longtemps et entrave notre ascension. Car dès que nous aurons assez grandi pour entrer en la conscience de vérité, c'est son pouvoir de vérité essentielle, spirituelle, qui déterminera tout. En cette vérité, nous serons libérés. C'est elle qui transformera le mental, la vie, le corps. La lumière, la béatitude, la beauté, la perfection du fonctionnement juste et spontanée de tout l'être, tels sont les pouvoirs naturels de la conscience de vérité supramentale. Ils transformeront donc tout naturellement le mental, la vie et le corps ici même, sur cette terre, et en feront une manifestation de l'esprit conscient de la vérité. Il se pourrait aussi que la transformation se produise par étapes. Certains pouvoirs de notre nature qui pourtant relèvent encore de la région mentale sont des potentialités d'une gnose en voie de développement. Ils s'élèvent au-delà de notre mentalité humaine. Ils participent déjà de la lumière et du pouvoir du divin, et il semblerait qu'une ascension. Par ces plans, leur descente dans l'être mental dût être la courbe évolutive naturelle. Une autre difficulté à laquelle doit faire face la transformation du corps et qu'il dépend de la nourriture pour son existence même. Ici aussi, nous sommes en présence des instincts, impulsions et désirs physiques grossiers qui accompagnent ce facteur difficile. Les goûts irrésistibles du palais, l'avidité pour la nourriture et la gloutonnerie animal du ventre, l'alourdissement du mental quand il se vautre dans la boue des sens et obéit à la servitude des parties purement animales pour embrasser l'esclavage de la matière. L'homme supérieur en nous cherche refuge dans la modération et la tempérance, dans la frugalité, l'abstinence, à moins qu'il ne dédaigne le corps et ses besoins et s'absorbe dans des poursuites supérieures. Souvent, à l'instar des ascètes jaïnes, les chercheurs spirituels se réfugient en des jeûnes prolongés et fréquents qui les tirent des griffes du corps et de ses exigences, du moins temporairement, et les aide à sentir en eux-mêmes la pure vacuité des grands espaces de l'esprit. Mais tout cela n'est pas la libération. Et l'on peut se demander si non seulement à ses débuts, mais toujours, la vie divine aussi ne devra pas être soumise à ses nécessités. Pourtant, elle pourrait s'en délivrer complètement si elle découvrait le moyen de puiser à l'énergie universelle afin de soutenir non seulement les parties vitales de notre organisme, mais aussi la matière qui le constitue, sans avoir besoin de recourir à une substance extérieure matérielle pour se nourrir. Certes, il est possible, tout en jeûnant pendant de très longues périodes, de garder toutes les énergies et de continuer les activités de l'âme, du mental, de la vie et même du corps, de rester réveillé et concentré tout le temps dans le yoga ou de réfléchir profondément et d'écrire jour et nuit et de se passer de sommeil, de marcher 8 heures par jour et de poursuivre toutes ces activités en même temps ou séparément sans éprouver la moindre perte de force, fatigue, défaillance ni diminution. Il est même possible à la fin du jeûne de reprendre immédiatement la quantité normale de nourriture ou même davantage, sans aucune transition ou précaution prescrite par la science médicale. Même si le jeûne complet ou le festin complet, alternant de l'un à l'autre par une transition immédiate et facile, étaient des conditions naturelles d'un corps déjà entraîné à être l'instrument des pouvoirs et des activités du yoga par une sorte de transformation préliminaire. Je me permets de vous dire que ce que je viens de lire concernant le jeûne, les longues périodes où Sri Aurobindo à marcher 8 heures par jour et continuer toutes ses activités. Il s'agit de sa propre expérience. Mais il y a une difficulté à laquelle nous n'échappons pas. C'est l'usure des tissus matériels du corps, de sa chair et de sa substance. On peut concevoir cependant que si l'on pouvait trouver un moyen pratique, ce dernier obstacle apparemment invincible pourrait lui aussi être surmonté et que le corps pourrait se nourrir par un échange de force avec les forces de la nature matérielle. Le corps donnant à la nature ce qu'elle réclame de l'individu et prenant d'elle directement les énergies substantatrices au sein de l'existence universelle. Il est concevable que l'on puisse redécouvrir et rétablir au sommet de l'évolution de la vie le phénomène que l'on observe à sa base, le pouvoir de la vie de puiser tout autour les moyens de se substanter et de se renouveler. Ou bien l'être évolué pourrait acquérir un pouvoir plus grand encore et tirer ses forces d'en haut au lieu de les tirer d'en bas et de les puiser ça et là dans le milieu ambiant et en dessous. Mais tant qu'un pouvoir de ce genre ne sera pas acquis ou rendu possible, nous devons revenir à la nourriture et aux forces établies par la nature matérielle. En fait, bien qu'inconsciemment nous puisons constamment à l'énergie universelle ou à la force de la matière pour réapprovisionner notre existence matérielle et les énergies mentales, vitales et autres du corps, nous le faisons directement par d'invisibles processus d'échange que la nature fait jouer constamment par les moyens spéciaux qu'elle a inventés. La respiration est l'un d'eux, le sommeil aussi et le repos. Mais le moyen de base choisi par la nature pour entretenir le corps physique grossier et renouveler son fonctionnement et ses forces internes et l'absorption de la matière extérieure sous forme de nourriture, la digestion, l'assimilation de ce qui est assimilable et l'élimination de ce qui ne peut pas ou ne doit pas être assimilé. Ceci en soi suffirait simplement à subsister, mais pour assurer la santé et la vigueur du corps entretenue par ces moyens, elle a ajouté la tendance innée aux exercices physiques, aux jeux de toutes sortes qui sont d'autres moyens de dépenser et de renouveler les énergies et le choix où la nécessité est de travailler de diverses manières. Dans la vie nouvelle, du moins à ses débuts, il ne serait pas nécessaire ni recommandable de vouloir rejeter complètement et précipitamment le besoin de nourriture ou la méthode naturellement établie pour la conservation d'un corps encore imparfaitement transformé. Si ces moyens doivent être transcendés, ou quand ils devront l'être, il faudra que la décision vienne d'un éveil de la volonté de l'esprit, et aussi d'une volonté dans la matière elle-même, d'une poussée évolutive impérieuse d'un acte issu des transmutations créatrices du temps ou d'une descente des transcendances. En attendant, il se peut fort bien que le puisage de l'énergie universelle autour de nous par un mouvement conscient des pouvoirs supérieurs de notre être ou d'en haut, par un appel à ce qui est pour nous et encore une conscience transcendante, ou par une invasion, une descente de la transcendance elle-même, devienne un phénomène occasionnel fréquent, voire constant, et que l'on puisse même réduire la nourriture ou son besoin a un rôle secondaire qui ne préoccupe plus, à une nécessité mineure et de moins en moins impérieuse. Pour le moment, nous devons accepter la nourriture et les moyens habituels de la nature. Par leurs usages, doit être libre d'attachement. De désir. Mais leur usage doit être libre d'attachement, de désir, d'appétit grossier et sans discernement et de rapacité pour les plaisirs de la chair, car telle est la matière de l'ignorance. Les moyens physiques doivent être subtilisés. Et il faudra sans doute éliminer les plus grossiers, découvrir des moyens nouveaux ou qu'émergent de nouveaux instruments. Tant que l'on admet la nourriture, y prendre un plaisir raffiné est permis. Il se peut même qu'un ananda du goût sans désir remplace les saveurs physiques et nos prédilections humaines guidées par le goût ou le dégoût, car telle est la façon imparfaite dont nous répondons actuellement aux invites de la nature. Il faut se souvenir que si nous voulons une vie divine sur la terre et la matière ne doivent pas et ne peuvent pas être rejetées. Il faut seulement les sublimer et qu'elles relèvent du fond d'elles-mêmes les possibilités de l'esprit, qu'elles servent aux usages les plus hauts de l'esprit et se transforment en instruments d'une existence plus vaste. Toujours, c'est l'élan vers la perfection qui doit animer la vie divine. Or, la perfection de la vie fait partie de la vie divine, même une partie essentielle. Le bonheur du corps dans ce qu'il fait et la joie de vivre du corps ne sont pas exclus de la vie divine. Eux aussi doivent devenir parfaits. Une large totalité, telle est la nature même de ce nouveau mode d'existence progressif. Une plénitude des possibilités du mental transmué en substance de lumière. Une plénitude de la vie convertie en force de joie et de pouvoir spirituel. Une plénitude du corps transformé en instrument de l'action divine et de la connaissance divine, de la béatitude divine. Tout ce qui est capable de se transformer peut faire partie de la vie divine. Tout ce qui peut être un instrument, un canal, un moyen d'expression de la totalité de l'esprit qui se manifeste. La sexualité pose un certain problème pour ceux qui veulent rejeter in tutto les obligations qu'impose l'animalité du corps. Et ce problème, l'animalité ne manque pas de le soulever obstinément chaque fois qu'elle veut barrer le chemin à l'aspirant à la vie supérieure. C'est la nécessité de la perpétuation de l'espèce, puisque l'activité sexuelle est le seul moyen que la nature ait jusqu'à présent fourni aux êtres vivants et qu'il s'impose inéluctablement à l'espèce. En fait, pour celui qui cherche individuellement la vie divine, il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ce problème, ni même pour un groupe qui ne la recherche pas pour lui seul, mais désire la faire accepter par l'humanité dans son ensemble, ou du moins comme un idéal. Il y aura toujours la multitude de ceux qui ne s'intéressent pas à la vie divine ou qui ne sont pas prêts à la mettre intégralement en pratique. Ceux-là peuvent prendre soin de la conservation de l'espèce. Le nombre de ceux qui mènent la vie divine peut fort bien rester constant et même s'accroître par l'adhésion volontaire de ceux qui sont touchés par l'aspiration à mesure que l'idéal se répand. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de recourir à des moyens physiques ni de s'écarter de la stricte règle d'abstinence sexuelle. Cependant, il peut exister des circonstances où l'on trouverait peut-être souhaitable d'un autre point de vue de créer volontairement des corps pour certaines âmes qui cherchent à entrer dans la vie terrestre afin d'aider à la création et à l'expansion de la vie divine sur la terre. Dans ce cas, la nécessité d'une procréation physique à cette fin ne pourrait pas être évitée que si l'on découvrait et disposait de moyens nouveaux d'ordre supraphysique. Ce genre de phénomène relève évidemment d'un domaine que l'on considère maintenant comme occulte et il implique l'usage de pouvoirs d'action et de création cachés qui ne sont ni connus ni à la disposition du mental ordinaire de l'espèce. En fait, l'occultisme est un usage de pouvoirs supérieurs de notre nature, de notre âme, de notre mental, de notre force de vie et des facultés de la conscience physique subtile qui, par la pression de leurs lois secrètes et de leurs potentialités, peuvent produire certaines manifestations ou résultats de leur propre plan sur le plan matériel, dans le mental, dans la vie, dans le corps humain ou terrestre ou parmi les objets et les événements du monde de la matière. Déjà, certains penseurs réputés considèrent que la découverte et l'extension de ces pouvoirs peu connus ou encore embryonnaires doit constituer la prochaine étape de l'humanité dans son évolution immédiate. Une procréation du genre dont nous parlons ne figure pas encore parmi leurs prévisions, mais on pourrait fort bien l'envisager parmi les possibilités nouvelles. La science physique elle-même s'efforce de trouver des moyens physiques pour se dispenser des méthodes et des procédés ordinaires de la nature aux fins de la reproduction ou de renouvellement de la force de la vie physique chez l'être humain ou chez les animaux. Mais l'usage des moyens occultes et des procédés physiques subtils, s'il s'avérait possible, ouvrirait une voie plus vaste et permettrait d'éviter les limitations, les dégradations, les insuffisances et la lourde imperfection des moyens et des résultats accessibles aux seules lois de la force matérielle. En Inde, depuis les temps les plus reculés, on a toujours très généralement cru en la possibilité et l'usage effectif de ce genre de pouvoir par des hommes très avancés, en la connaissance des choses secrètes ou possédant une force spirituelle, une expérience spirituelle développée et une force dynamique. On trouve même dans les tantras tout un système organisé exposant la méthode et la pratique de ces pouvoirs. Shorvindo explique en Nota Bene, Tantra, système de yoga qui, à la différence de l'illusionniste et de ceux qui poursuivent exclusivement la voie de la connaissance, fait du principe dynamique ou de la force créatrice Shakti son principe central. Au lieu de rejeter le monde, il cherche à maîtriser ses pouvoirs. Une âme qui désirait entrer dans un corps ou se former un corps pour elle-même, afin de prendre part à la vie divine sur la terre, pourrait ainsi être aidée à le faire, ou elle pourrait même se voir fournir une forme par un procédé de transmutation directe sans passer par la naissance ou par les moyens sexuels, et sans être soumise à aucune des dégradations ni des lourdes limitations qui accompagnent inévitablement notre croissance mentale et le développement de notre corps matériel selon notre mode actuel d'existence. De la sorte, cette âme pourrait immédiatement acquérir la structure, les pouvoirs et le fonctionnement supérieur d'un corps matériel vraiment divin tel qu'il émergera un jour dans cette évolution progressive qui s'achemine vers une existence totalement transformée en sa vie comme dans ses formes au sein d'une nature terrestre divinisé. Mais quelle serait la forme, la structure interne et externe, des instruments de ce corps divin? L'histoire matérielle du développement du corps animal et l'humain fait que ce corps est enchaîné à un système compliqué d'organes minutieusement élaboré et à un fonctionnement précaire qui à tout moment peut se changer en désordre. Un fonctionnement susceptible de n'importe quelle désorganisation générale ou locale, soumis à un système nerveux qu'un rien dérange, commandé par un cerveau dont les vibrations sont supposées mécaniques et automatique et non sous notre contrôle conscient. Suivant les matérialistes, tout cela est exclusivement un fonctionnement de la matière dont la réalité fondamentale est chimique. Nous devons croire que ce corps bâti par l'action d'éléments chimiques qui échafaudent les atomes, molécules et cellules, et qu'en outre, ceux-ci sont les seuls agents et les seuls pilotes à la base de cette structure et de ces instruments physiques compliqués, lesquels sont la seule cause mécanique de toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos sentiments. L'âme est une fiction. Le mental et la vie, une pure et simple manifestation ou figuration matérielle et mécanique de cette machine, laquelle est combinée et automatiquement mise en mouvement par les forces inhérentes à la matière inconsciente, avec une illusion de conscience dedans. Ça, c'est les matérialistes. Si telle était la vérité, il est évident qu'une divinisation ou transformation du corps ou de quoi que ce soit d'autre serait une pure illusion, une imagination, une chimère impossible et insensée. Mais même si nous supposons qu'une âme, une volonté consciente soit à l'œuvre dans ce corps, elle ne pourrait pas parvenir à une transformation divine sans un changement radical dans l'instrument corporel lui-même et dans l'organisation de son fonctionnement matériel. L'agent transformateur, l'âme ou volonté, resterait enchaîné. Son travail serait bloqué par les limitations immuables de l'organisme physique, entravé par l'animal originel inchangé en nous ou imparfaitement inchangé. Les possibilités de désordre, de dérangement, de maladie qui sont naturelles à cette organisation physique seraient toujours là et ne pourraient être prévenues que par une vigilance constante ou par une intervention obligatoire, perpétuelle, de l'habitant et maître spirituel de l'instrument corporel. Ceci ne saurait s'appeler un corps vraiment divin. Un corps divin serait naturellement et perpétuellement libre de tous ses troubles. Cette liberté serait la vérité normale et naturelle de son être, et par conséquent, elle serait immanquable et invariable. Une transformation radicale du fonctionnement, peut-être même de la structure, en tout cas certainement des impulsions et des forces motrices trop mécaniques ou trop matérielles du système corporel, est impérieusement nécessaire. Quel agent trouverons-nous pour opérer un changement si considérable et réaliser une libération si totale? Alors, je me permets d'arrêter là le corps divin de Sri Aurobindo dans le livre « La manifestation supramentale » traduit de l'anglais « Par la mer ». Alors, je me permets de vous répondre que je poursuivrai la semaine prochaine, la continuation extraordinaire de la description progressive que fait Sri Aurobindo au corps divin. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Claire, Ganga, Lakshmi.